Vous êtes sur Fracture 95.9 sur Radio Pulsar. Fracture, une émission de critique de l'actualité. Fracture, une émission des luttes sociales. Fracture est toujours confinée. Au montage, c'est Katrina et en studio, c'est Jules.
Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, Fracture va faire escale en Guyane et puis en Guadeloupe et en Martinique. Donc on retrouve sur place Adrien Guillot. Bonjour Adrien.
Bonjour.
On retrouve aussi Pierre Rodin, du coup, qui va nous parler de la situation en Guadeloupe et en Martinique. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors on commence par toi, Adrien.
Pour me présenter rapidement, je m'appelle Adrien Guillot. Je suis sage-femme en profession, ça a une importance dans un petit peu tout ce qui se passe actuellement en Guyane. Et je suis un militant, donc membre de la direction de l'Union des travailleurs guyanais, principal syndicat anticolonialiste de Guyane, membre du MDES, Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Et je suis également membre de la 4e internationale. Donc voilà pour la présentation, je ne sais pas si Pierre veut se présenter, et puis après comme ça je fais un petit point sur la Guyane.
Moi je suis Pierre Rodin, donc je suis sociologue et je travaille principalement sur les mouvements syndicaux et puis les mobilisations anticolonialistes en Guyane et en Guadeloupe et en Martinique. J'ai eu l'occasion aussi de me rendre en Guyane et de rencontrer un peu des militantes et des militants là-bas, mais je suis un peu plus spécialisé dans la Guadeloupe et la Martinique.
La Guyane, juste un petit rappel un petit peu, parce que souvent c'est un peu confus, je sais, en France, ce qu'est la Guyane. On parle des Antilles, Antilles-Guyane, on ne sait plus trop. Alors, la Guyane, ce n'est pas les Antilles, la Guyane, c'est la seule colonie française qui est continentale, c'est-à-dire qu'elle est intégrée directement au continent sud-américain. C'est un territoire qui est grand comme un quart de fois la France. Plus grand que la grande région Aquitaine, et qui est couvert à 90% par de la forêt amazonienne. Il y a environ 300 000 habitants sur le territoire guyanais, et il y a plus de 700 km de frontière avec le Brésil voisin, et presque 400 km de frontière avec le Suriname de l'autre côté. Voilà, ça c'était un petit peu pour replacer la Guyane géographiquement. Parce que ça a son importance, notamment. C'est une région qui ça appartient à la région du plateau des Guyanes et non pas à l'arc antillais. C'est quand même parfois important de le rappeler. Okay. Voilà.
Du coup, la Guyane n'est pas une île.
On est plus près du Venezuela que de la Martinique ou de la Guadeloupe. Voilà. Okay. Donc la situation sanitaire. Alors en Guyane, la situation sanitaire a évolué doucement initialement. Lorsque le confinement a été décrété, il y avait officiellement 6 cas répertoriés en Guyane. Nous sommes restés très longtemps au stade 1 de l'épidémie. Et puis après, bon, on va en parler tout à l'heure, mais suite à la procédure au tribunal administratif, au référé au tribunal administratif, ça a un petit peu accéléré les choses. Le stade 2 a été proclamé et on a pu avoir accès à différents soins et à différents matériels. Donc ça, c'est quand même important. Alors, malgré le confinement, on a eu une évolution importante des cas régulièrement. Aujourd'hui, là, on est à 200 cas, enfin 197 au dernier recensement. C'est-à-dire qu'on est passé devant la Martinique et je crois même devant la Guadeloupe, alors qu'on était très en retard initialement quand le confinement a débuté. Il n'y a actuellement qu'un seul mort recensé. Mais une des particularités de la population guyanaise, c'est que plus de 50% de la population a moins de 25 ans, ce qui la rend normalement assez peu vulnérable en termes de mortalité à ce virus. Voilà. Actuellement, depuis le déconfinement, qui a été ordonné le 11 mai, parce qu'il fallait que tout le monde soit déconfiné sur tout le territoire national, n'est-ce pas ? Eh bien, depuis le 11 mai, ça s'accélère. Il y a un énorme cluster à la frontière avec le Brésil, qui est en train de se répandre à vitesse grand V à travers tout le territoire guyanais. Et ça c'est notre inquiétude du moment, on va dire. Alors, faire un peu le point sur l'historique des contaminations en Guyane, et notamment de l'impact des autorités et des prises de décision qui n'étaient absolument pas adaptées à la situation guyanaise. En fait, dès le départ, il y a eu tous les cas jusqu'au 1er avril, quasiment tous les cas ont été importés. Tous les cas détectés ont été importés. Ils sont tous arrivés par l'aéroport. C'était nickel. On n'a mis aucun dépistage en place au niveau des aéroports. La quatorzaine a été rendue obligatoire seulement après le confinement. C'est une quatorzaine très light qui a été mise en place en Guyane, puisqu'on a conseillé aux gens de rester chez eux, tout simplement. On leur a donné un petit papier en leur disant « il faut rester en quatorzaine à la maison hein, », contrairement aux Antilles où ils ont fait des quatorzaines dans des lieux dédiés et où tu ne pouvais pas sortir. Ça n'a pas été le cas en Guyane. Et puis, il y a un autre problème important en Guyane, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont été exemptés de quatorzaine, notamment toutes les personnes essentielles à la nation. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Le préfet n'a jamais voulu nous répondre. Et donc, il y a énormément, enfin, tous les soignants sont exemptés de quatorzaine, les dockers, plusieurs fonctionnaires d'État, enfin bref. Et donc, grâce à ça, on a eu le droit à l'apparition de clusters au sein des hôpitaux guyanais, hein, puisque forcément, si on ne fait pas appliquer le quatorzaine, bah, on importe le virus. Donc, il y a eu comme ça, depuis le départ, une gestion assez chaotique des autorités sanitaires en Guyane. Mais qu'il y ait une vision propre de la France, c'est-à-dire toujours une vision très centralisée où on n'arrive pas à imaginer que la Guyane est sur le continent américain, que la périodicité de l'épidémie ne sera pas la même, que les caractéristiques ne seront pas les mêmes, que nous sommes avec un territoire où on peut circonscrire le virus, puisqu'on a quand même une population assez faible, hein, 300 000 habitants, mais que pour ça il faut se donner les moyens, il faut faire des tests. Enfin bref, voilà. Donc la stratégie qui a été appliquée, c'est la stratégie qui a été mise en place en France et il n'y a pas eu de dissociation par rapport à ça. Et c'est ce qui a vraiment permis au virus de se développer à vitesse grand V malgré tout, malgré le confinement. Il s'est développé à travers tout le territoire. Et on a vu l'apparition de clusters un peu partout dans le territoire. Donc ça, c'est pour l'arrivée du virus. Devant ces différents faits, il y a eu un... Enfin, je ne sais pas si tu veux qu'on continue tout de suite, je te référer.
Juste, j'ai une petite précision à te demander. Quand tu disais que donc, l'État a dit que les travailleurs et travailleuses qui étaient essentiels à la nation devaient continuer, par rapport au personnel hospitalier, du coup, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de quatorzaine appliquée. Est-ce que ça vient du fait qu'il y a peu, enfin pas assez de monde qui travaille, ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, une attitude coloniale en disant là-bas, de toute façon, c'est loin de la métropole, donc ils feront bien ce qu'ils voudront.
Alors, en fait, si tu veux, je pense que c'est encore plus bête que ça. C'est-à-dire qu'on a juste appliqué les directives qui étaient appliquées en France. Au stade 3 de l'épidémie en France. C'est-à-dire qu'en France, on a dit, voilà, on a besoin de tous les soignants. On est au stade 3, donc vous êtes malade, vous n'êtes pas malade, vous arrivez d'une zone contaminée, vous n'arrivez pas d'une zone contaminée, vous devez être mis en... Vous ne pouvez pas être en quatorzaine puisqu'on a besoin de vous. Alors qu'en Guyane, on était au stade 1, on avait quelques cas. Effectivement, on manque de façon récurrente de soignants. Mais là, les cas considérés, les gens qui arrivaient de l'aéroport, c'était pas la moitié de l'hôpital, hein. C'était quelques praticiens, quelques médecins, et on pouvait aisément se donner la peine, étant donné qu'on avait à ce moment-là personne en réanimation, on avait très peu d'hospitalisation, on pouvait complètement se donner la peine, et qu'on avait fermé toutes les consultations, donc on avait la possibilité de redéployer du personnel sur les zones les plus prioritaires. On pouvait clairement se donner les moyens de laisser ces personnes en quatorzaine pour pas qu'elles transmettent le virus dans l'hôpital. Voilà. On ne l'a pas fait bêtement, je pense, par application des prescriptions qui sont mises en place en France. Et on continue de le faire, hein. Toujours actuellement, il y a toujours une quatorzaine obligatoire, sauf pour les gens essentiels à la nation. Et enfin bon, nous, vu d'ici, c'était assez incroyable, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de cas en Europe. Ici, on avait 5-6 cas et on laissait les gens venir infectés. C'est quand même 6 000 visiteurs par semaine qui arrivaient à l'aéroport initialement. Le trafic aérien s'est réduit qu'une fois le confinement démarré. Donc voilà, on a fait venir pas mal de monde avec pas mal de monde infecté dès le début de l'épidémie. Et c'est vrai que ça aurait pu d'ailleurs générer quelque chose d'encore plus compliqué par la suite.
Ok. Du coup, alors on va poursuivre parce que t'évoquais, tu commençais à évoquer l'action de l'UTG, du coup vis-à-vis alors, des travailleurs et des travailleuses de.
Ouais, au niveau des organisations, alors particulièrement l'UTG est très très active depuis le début de l'épidémie puisque en fait une telle crise sanitaire, elle ne peut que montrer à quel point il est complètement improbable qu'un territoire aussi vaste puisse être administré à 7000 km de distance. Et on le voit, c'est frappant. D'ailleurs, on a le pays voisin, le Suriname, qui est indépendant depuis 40 ans, a extrêmement bien géré la crise sanitaire depuis le début. Dès le départ, l'aéroport, l'arrivée à l'aéroport a été restreint. Il y a eu des contrôles qui ont été extrêmement bien menés, des périodes de quatorzaine qui ont été strictes. Et ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait, depuis le 31 mars, ils n'ont pas eu un seul cas positif sur les tests qu'ils font. Ils ont donc réussi à avoir que 10 contaminations et un mort. Et c'était des contaminations qui venaient principalement aussi d'Europe, de Hollande, puisque c'est l'ancienne colonie hollandaise. Donc voilà, ça nous donne un petit peu l'image, de sachant qu'ils sont deux fois plus d'habitants hein, au Suriname, ils sont 600 000 habitants, ça nous donne un petit peu l'image de ce qu'on aurait pu faire si on aurait géré nous-mêmes la situation en Guyane. Donc nous, on a continué d'appliquer les inepties de l'État et on a commencé par dénoncer. Et puis, c'est qu'il y a eu l'action, en référé de l'UGTG, qui a été, à la surprise générale, suivie par le tribunal administratif de Basse-Terre. Vraiment à la surprise générale, parce que ça, normalement, c'est une anomalie qui ne devrait pas exister en colonie, hein, qu'on soit clair. Il est hors de question que la justice administrative donne raison à un syndicat de travailleurs indépendantistes. C'est du grand n'importe quoi. Bon, heureusement, la Cour de cassation a rapidement réglé le problème. Enfin, le Conseil d'État, en l'occurrence. Du coup, nous, on s'est tout de suite engouffré dans la brèche. Dès qu'on a vu ça, le lendemain même, on a dit, on y va, on fait un référé. Et on a été, du coup, rapidement contacté par les camarades du MDES, l'association Trop Violence 500 Frères, le comité drapeau. Et on a structuré, avec l'aide de deux avocats et puis notre service juridique, on a structuré une requête qu'on a déposée le 31 mars. Alors, le juge devait se prononcer avant le 2 avril, au soir. Et puis, bah là, c'est la magie de la justice dans les Outre-mer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une petite prolongation de dépôt des pièces, comme ça se fait régulièrement dans les cas de référé, donc jusqu'au vendredi 2 dans l'après-midi. Et donc, le jugement devait être rendu le vendredi 2 au soir ou le samedi 3 au matin ou plus tard, le temps d'analyser les pièces. Et là, en fait, eh bien, on n'a pas eu de nouvelles. Le juge, disparu. Et le jugement a été rendu que le 6, le lundi 6. Et dans ce laps de temps, à partir du 1er avril, on a vu une réaction incroyable de la préfecture et de l'ARS qui se sont mis à mettre en place tout un tas de procédures à l'aéroport, dans les hôpitaux. En fait, toutes les demandes que l'on formulait dans le référé, ils ont fait, on va dire, le minimum nécessaire pour que le juge puisse leur donner raison. Et le samedi, ils ont décrété le passage au stade 2 de l'épidémie de la Guyane. Sous couvert de ça, ils ont renforcé les contrôles aux aéroports et ils ont enfin rendu obligatoire le port du masque à l'hôpital, ce qui n'était toujours pas le cas à ce moment-là, parce qu'en fait, il y avait soi-disant des stocks de masques, mais c'était strictement impossible d'y avoir accès, ils étaient tous sous clé, puisqu'on était qu'au stade 1. Voilà, c'était merveilleux. Et ça a permis aussi de faire un point concernant les tests. Donc là, comme par miracle, on a découvert qu'il y avait 10 000 tests qui étaient disponibles en Guyane. Alors, petite parenthèse, la semaine dernière, le week-end dernier, juste avant le déconfinement, il n'y a pas eu de test parce qu'il n'y avait plus les couvillons pour faire les tests. Donc, bon, il y a eu un petit mensonge de la part de l'ARS, hein, mais bon, il y a un avion qui arrive avec des couvillons. Depuis, on refait des tests, tout va bien. Voilà, c'est super. Et puis, les capacités réanimatoires, parce que la Guyane, bon, je n'ai pas parlé de la situation sanitaire en Guyane, mais c'est difficile en France d'imaginer à quel point la situation sanitaire est dégradée en Guyane. Officiellement, il y a 11 lits de réanimation pour 300 000 habitants en Guyane. C'est trois fois moins qu'en France, en temps normal. Donc, pour pouvoir rattraper le niveau de mobilisation en France, il fallait qu'il y ait 75 lits de réanimation. C'est un peu mission impossible, mais on a réussi quand même avec ce référé à faire en sorte que il y ait d'ouvert immédiatement 30 lits de réanimation et que le matériel soit disponible avec théoriquement du personnel, ça reste théorique, pour ouvrir jusqu'à 60 lits de réanimation. Donc malgré tout, ce référé a été très utile, même si le prononcé du juge, alors là aussi c'est très drôle, parce que le juge, normalement dans un tribunal administratif, lorsque le jugement est rendu, la justice administrative, elle est seulement écrite. Tu ne peux pas avoir, les débats ne vont pas modifier la décision du juge, tout doit être écrit. La procédure s'est terminée, c'est close le vendredi après-midi, et le juge, dans son ordonnance de jugement, va évoquer des faits qui se sont réalisés la veille au soir, donc le 5 avril, ce qui montre réellement une complicité incroyable de la part de la justice. Alors, on avait l'occasion d'aller en contentieux jusqu'au Conseil d'État, mais vu ce qu'ils ont fait de l'ordonnance de l'UGTG, on savait que c'était peine perdue et qu'on risquait surtout de perdre de l'argent dans cette affaire. Mais, puisque le Conseil d'État est vraiment aux ordres, hein, c'est un truc assez impressionnant depuis le début de l'épidémie. Donc voilà un petit peu cette petite action.
Alors, pour continuer la discussion et l'action qui a été menée par l'UTG et le MDES, du coup, Pierre, est-ce que tu pourrais nous faire une précision un peu sur ce qui s'est passé en Guyane, sur cette action
en Guadeloupe, du coup.
En Guadeloupe, pardon.
Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que là encore, ça s'est fait un peu par étapes, parce que les choses sont un peu différentes dans le cas de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Guyane. C'est-à-dire que là, on est évidemment dans un contexte géographique qui est insulaire. Et donc, en fait, à partir des entrées et sorties du territoire, c'est les premières choses qui ont été pointées du doigt par les populations. Il y avait cette idée qu'on allait pouvoir maîtriser l'épidémie à partir du moment où on contrôlait plus ou moins les flux de population qui entraient et qui sortaient sur les territoires. Bon, ça a d'abord suscité des mouvements, on va dire, des mouvements de parmi la population, c'est-à-dire que quand il y a eu des suspicions de Covid, notamment autour de touristes, les populations, alors il y a eu un épisode en Martinique hein, où ils ont arrêté un bus de touristes pour les faire descendre et exiger que les touristes soient testés et mis en quarantaine. Donc il y avait déjà une espèce de petite agitation de ce côté-là. Et puis, alors là, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien discuter avec Adrien, parce que ça m'intéresse aussi, mais il y a surtout une très, très grosse appréhension parmi la population en Guadeloupe et en Martinique sur la capacité de l'État à réagir face à une crise sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des précédents qui ne penchent pas favorablement dans l'appréciation qu'ont les populations du rôle de l'État. C'est-à-dire que notamment depuis 2017 et l'incendie qui avait ravagé le CHU de Pointe-à-Pitre, le CHU est en sous-capacité d'accueil, les conditions de travail pour les soignants sont absolument, sont extrêmement problématiques et les capacités d'accueil sont particulièrement réduite. Deuxième problème, il y a quand même la question de l'accès à l'eau, c'est-à-dire que effectivement, quand vous avez des consignes répétées de la part de l'État qui sont là encore une fois identiques à celles qu'on peut avoir en France, bah, lavez-vous les mains si vous trouvez pas de gel hydroalcoolique et que vous vivez avec des coupures d'eau, ce qui est extrêmement fréquent en Guadeloupe parce que il y a une déperdition en fait de l'eau qui arrive au domicile des gens qui est absolument énorme. On parle de 50-60% de l'eau qui est perdue dans les canalisations vétustes. Et puis, par ailleurs, des scandales sanitaires qui couvent depuis longtemps. Si on pense à l'empoisonnement des sols au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, les gens ont quelques raisons un peu objectives de douter de l'État sur les questions de crise identitaire. Donc voilà, les gens Les populations redoutent l'épidémie, comme toutes les populations à travers le monde redoutent l'épidémie, mais en plus de ça, elles doutent très très fortement de l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? À partir du début du mois de mars, une quinzaine de mars en fait, il y a eu un communiqué des organisations anticolonialistes. Donc là, on parle de l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, qui est la première organisation syndicale en Guadeloupe, et puis du collectif Lionnage contre Profitation, donc un peu la coalition qui rassemble à la fois des syndicats, des organisations politiques et des associations en Guadeloupe, et ce sont des organisations explicitement anticolonialistes, qui se sont réunis pour faire un communiqué en disant là, il y a quand même un très très gros problème dans la gestion de la crise du Covid, c'est-à-dire que les autorités savaient auxquels risques étaient exposées les populations et qu'elles n'ont pas communiqué. Et ce qui est assez frappant, je trouve, c'est que du fait, on va dire, de l'intensité des contradictions du département d'outre-mer, c'est-à-dire que les problèmes sont les problèmes qu'on connaît dans l'Hexagone, ils existent aussi, mais ils sont en pire. Il y a tout de suite une prise de position des organisations anticolonialistes pour dire attention, le gouvernement est en train de nous mener en bateau, on va de revirement en revirement sur la stratégie de confinement et la stratégie de prise en charge de la pandémie. Et donc il y a eu ce communiqué. Et ce qui s'en est suivi, c'est que l'UGTG a déposé donc un référé devant le tribunal administratif en mettant en demeure l'État et l'ARS en disant l'État est actuellement structurellement défaillant, il met en danger les populations. Et alors, à la grande surprise de pas mal de monde, et je pense des militants eux-mêmes, le tribunal administratif a dans un premier temps, le 18 mars, donné raison à le 28 mars, donc 11 jours après le début du confinement, a donné raison à l'UGTG en disant « Oui, effectivement, l'État met en danger les populations parce que il n'est pas capable ni de tester, ni d'accueillir. » Alors, cette problématique-là, on pourrait se dire « Voilà, c'est des problématiques qu'on rencontre également dans l'Hexagone, mais ce qui est impressionnant, c'est que ce sont des organisations syndicales, des organisations de salariés qui ont pris les devants et qui sont allés directement poser la question en disant « Mais attendez, où va le gouvernement? Où est-ce qu'on en est ?» Parce qu'ils faisaient le relais de toutes les inquiétudes qu'il y avait parmi la population. Voilà, c'était un peu pour revenir sur le contexte en Guadeloupe et en Martinique, mais on va le retrouver complètement dans les problématiques qui se posent aujourd'hui en termes de déconfinement. Et voilà, je voulais un peu insister là-dessus, hein, c'est cette question de douter de l'État, redouter l'épidémie, qui me paraît absolument centrale dans la façon, à la fois qu'a eu l'État de gérer le problème, et qui me paraît moi assez colonial, en tout cas qui a des forts lois coloniales, et qui, en tout cas, qui est vécu comme tel par la population. C'est-à-dire la population dit clairement, il y a une différence de traitement entre les citoyens de l'Hexagone et les citoyens en Guadeloupe ou en Martinique, et cette différence-là, elle est coloniale.
On se fait une petite pause musicale avec Kazé, Loin de chez moi.
Charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine. Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs, et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on prie avec la Bible, fête le carnaval comme toute la Caraïbe, que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent case en tôle tous les vêtements. Sais-tu, sais-tu, comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime. Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies. Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille.